Info matin, Nicolas Legrand.
Manuel Valls va de nouveau rencontrer le FLNKS. Une nouvelle délégation du Front indépendantiste doit se présenter au commissariat ce matin pour rencontrer le ministre des Outre-mer. Manuel Valls qui a donc prolongé son séjour pour la deuxième fois, alors qu'hier il saluait le travail du comité de rédaction qui a terminé d'écrire le projet de loi constitutionnelle après 3 réunions et 11 heures de débat. Justice, une enquête ouverte pour tentative de meurtre sur gendarme. Un homme a tiré sur la caserne de Tadine hier matin, alors que les militaires se préparaient à partir en intervention. L'actualité politique nationale et François Bayrou qui engage la responsabilité de son gouvernement. Le Premier ministre va solliciter un vote de confiance après une déclaration de politique générale le 8 septembre. Le gouvernement pourrait chuter puisque la gauche, mais aussi le Rassemblement national, annonce ne pas soutenir le locataire de Matignon. Du sport, du cyclisme et David Godu qui remporte la 3e étape de la Vuelta. Il s'est imposé au sprint devant Mats Pedersen et Jonas Vingegaard. Le Danois conserve le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne. Il est exactement dans le même temps que le Français. La météo en Nouvelle-Calédonie, sur l'ouest, après un début de matinée bien ensoleillé, de rares averses arrivent dans un ciel qui se charge. Quelques belles éclaircies se maintiennent sur l'est, alors que les Loyautés bénéficient encore d'un temps plus ensoleillé. Le vent d'ouest à nord-ouest reste fort, avec des rafales jusqu'à 40 nœuds, du sud-ouest jusqu'à l'île des Pins. Peu de changements côté température, avec 24 à 27 degrés de l'île des Pins jusqu'au nord-est.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une, Manuel Valls prolonge encore son séjour en Nouvelle-Calédonie.
Oui, à l'issue de la 3e réunion du comité de rédaction, le ministre des Outre-mer a annoncé à ses interlocuteurs qu'il différait son départ. Il reçoit aujourd'hui une nouvelle délégation du FLNKS, un rendez-vous que le ministre des Outre-mer confirme sur sa page Facebook en annonçant que le comité de rédaction a terminé sa première phase de travaux, Léo Fichou.
Oui, je me félicite de l'aboutissement des travaux du comité de rédaction qui ont notamment permis, après 3 séances et 11 heures de débat, d'associer les partenaires politiques ainsi que le CESE ou le Sénat coutumier, écrit Manuel Valls sur ses réseaux sociaux. Le ministre ajoute que les travaux ont été dominés par un grand esprit de responsabilité de la part des signataires de l'accord signé à Bougival et de la volonté de le mettre en œuvre. Place maintenant aux derniers arbitrages ministériels, puis à l'avis du Conseil d'État et enfin à l'adoption en Conseil des ministres le 17 septembre. Puis le constituant se saisira du texte. L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie franchit donc une étape décisive vers sa mise en œuvre, poursuit le ministre des Outre-mer. Il précise aussi que le comité de rédaction poursuivra ses travaux, notamment pour examiner les premières versions de la loi organique spéciale, et qu'il continuera à associer les responsables politiques, les maires, les autorités coutumières et la société civile. Par ailleurs, indique Manuel Valls, ma porte reste ouverte et je me félicite de pouvoir rencontrer demain, donc aujourd'hui, la nouvelle délégation du FLNKS. Une nouvelle délégation du FLNKS composée, selon nos informations, de ceux qui ont rencontré le ministre au début de son séjour. Dominique Fauchy pour l'UC, Laurie Oumouni pour le RDO, Marie-Pierre Goyetch pour le Parti Travailliste ou encore Arnaud Chollet-Léakava pour le MOI, Jean-Marie Ayawa pour la DUS, s'ajouteront à eux Pierre-Chanel Tutugoro et Gilbert Thuynon pour l'UC. Le ministre des Outre-mer conclut ce poste en précisant que partout où il s'est rendu au cours de la semaine, il a ressenti cette même aspiration, aller de l'avant ensemble. C'est, écrit-il, cette énergie qui nourrit ma détermination pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve enfin son chemin vers la tranquillité et l'épanouissement. Fin de citation.
Et les participants au comité de rédaction ont eux aussi exprimé leur satisfaction à l'issue de cette phase de travail. La plupart d'entre eux ont participé aux 3 réunions de ce comité de rédaction qui ont donc permis d'affiner le projet de loi constitutionnelle. Un texte indispensable pour créer l'État de la Nouvelle-Calédonie et fixer son statut dans la Constitution. Il permet aussi la consultation des populations calédoniennes sur l'accord de Bougival début 2026. Il crée et fixe ce qui relèvera de la loi organique spéciale et de la loi fondamentale. Et il définit également le corps électoral applicable pour les élections provinciales de juin 2026. Parmi les réactions à l'issue des travaux, celle de Vaimua Mouliava de l'Éveil océanien. Il se félicite tout d'abord de l'entretien prévu entre le ministre et le FLNKS.
Je crois que l'information principale qui nous a été donnée, au-delà du travail qui est terminé, c'est que le ministre nous a informé qu'il allait rencontrer une délégation du FNKS. On a toujours donné notre position. Avoir un accord sans le FNKS, c'est un peu risqué, quoi. Donc on souhaite que cette rencontre soit fructueuse et que les dialogues se renouent.
Est-ce que vous pensez justement que ce qui a été écrit dans ce projet de loi constitutionnelle pourrait refaire venir le FLNKS autour de la table ?
Nous pensons que oui, parce qu'il y a des éclairages qui ont été donnés aujourd'hui dans le cadre de la PGLC. Nous, ce qu'on note, c'est qu'il y a une tentative de dialogue, donc on espère que ce soit fructueux.
Un travail à la fois technique et politique, souligne pour sa part Virginie Ruffnac du Rassemblement. Elle insiste sur la nécessité de lever toutes les ambiguïtés.
Le travail a consisté à faire en sorte que ce qui a été fait et conclu à Bougival soit correctement traduit dans la loi constitutionnelle, dans la Constitution française. Et on a voulu que cette Constitution soit très bavarde, contrairement à l'habitude de la Constitution, pour précisément qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou d'interprétation différente. Nous voulions être très clairs et que le maximum de ce qui avait été écrit dans Bougival puisse être traduit dans la Constitution française, ce qui est le cas dans le résultat du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
Et parmi les ambiguïtés à lever, celles concernant les questions de nationalité qui suscitaient un certain nombre d'inquiétudes chez les partisans de la France. C'est l'un des points qui a été traité, souligne Sonia Baquès pour les loyalistes.
Les choses avancent dans le bon sens. On a des éléments qui étaient des éléments d'inquiétude des Calédoniens sur lesquels les choses sont clarifiées. Donc maintenant, le chemin est encore long, mais les équilibres ont été trouvés. Nous, on avait un élément important, c'était une inquiétude des Calédoniens de dire que, quelle que soit l'évolution, la nationalité calédonienne ne pouvait pas leur enlever la nationalité française. Donc c'est un élément sur lequel on a obtenu des garanties rédactionnelles de dire que, quoi qu'il se passe pour la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ne peuvent pas perdre leur nationalité française. C'était important pour nous.
Satisfait également le député Nicolas Metzdorf qui souligne que le comité de rédaction va désormais continuer le travail sur la loi fondamentale et sur la loi organique spéciale.
On a terminé la rédaction du projet de loi constitutionnelle. Après, ça reste qu'un projet, hein, puisque ça doit être adopté évidemment par le Sénat, l'Assemblée nationale, et ça doit passer par les fourches codines du Conseil d'État. Mais en tout cas, au niveau des partenaires de Bougival, la rédaction du projet de loi constitutionnelle est close. Comme on est dans l'esprit de Bougival, il y a des questions d'interprétation forcément, mais le tout s'est déroulé dans une très bonne ambiance constructive. On peut dire aux Calédoniens qu'aujourd'hui, il y a des partis constructifs autour de la table qui veulent travailler et qui veulent que ça avance.
Et après cette troisième réunion du comité de rédaction, le projet de loi constitutionnelle doit être déposé au Conseil d'État en ce début de semaine, en vue d'être adopté en décembre par le Congrès du Parlement réuni à Versailles. Dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement soulignent qu'une première étape a donc été franchie dans la mise en place de l'accord de Bougival, Léo Fichou.
Ils indiquent que le projet proposé par l'État respecte les équilibres négociés avec l'ensemble des délégations à Bougival et que les partenaires politiques calédoniens ont travaillé dans un esprit serein et constructif à l'élaboration du projet de loi constitutionnelle. Pour eux, cette première pierre au futur édifice institutionnel calédonien est essentielle, car la Nouvelle-Calédonie restant au sein de la République française, la Constitution demeure la norme suprême qui organise les grands principes qui régissent le fonctionnement du territoire. Ces travaux, exigeants mais fructueux, ont permis de dégager un texte consensuel, affirment les loyalistes et le Rassemblement. Il rappelle notamment que ce texte confirme l'établissement d'un statut pérenne, mettant fin à l'incertitude institutionnelle qui pèse depuis trop longtemps sur l'avenir du territoire et qu'il entérine la réouverture du corps électoral.
Le CESE est désormais associé à ce comité de rédaction et il était représenté hier matin par sa première vice-présidente, Rosanna Roy, et par son quatrième vice-président, Patrick Olivot. Le Sénat coutumier, en revanche, était absent hier après pourtant avoir participé aux deux premières réunions du comité de rédaction. Dans un communiqué, son président indique que cette absence n'exprime pas un retrait du processus de dialogue. Il écrit que cela marque la volonté du Sénat coutumier de rappeler sa mission propre, qui est de contribuer à la construction d'un avenir commun fondé sur la reconnaissance de l'identité kanak. Le président du Sénat coutumier, Maë Goé, a été reçu à la mi-journée par le ministre des Outre-mer.
Nous avons surtout dit que notre présence dans les deux premières réunions, c'était à la fois pour apporter notre vision. Et là, nous nous sommes rendus compte que l'accord Bougival était déjà quelque chose de dans le circuit, quoi. Donc, de notre point de vue, nos propositions ne pouvaient pas intervenir à ce niveau-là, quoi, compte tenu de l'engagement du projet à un plus haut niveau. Ensuite, nous avons dit que nous ne sommes pas fermés à la discussion. Dans un deuxième temps, nous nous situons aussi un peu dans l'idée de l'appui Bougival, quoi. Quels que soient les résultats, nous sommes positionnés pour continuer à discuter.
Le Sénat coutumier qui rappelle que la reconnaissance pleine et entière du peuple autochtone kanak et de son droit à l'autodétermination constitue un élément essentiel du dialogue politique. Dans l'actualité politique toujours, ce démenti de l'Union calédonienne, Léo Fichou, le parti a été victime d'un faux courrier qui a circulé hier matin sur les réseaux sociaux.
Oui, il s'agit d'une fausse note interne qui annonçait que l'UC allait changer de nom pour s'appeler l'Union kanak au lieu d'Union calédonienne. Un changement de nom justifié par le contexte de Bougival qui a introduit la notion artificielle de peuple calédonien. Cette fake news était publiée sous la signature du secrétaire général de l'UC, Dominique Fauchy, qui n'a pas apprécié la la plaisanterie. Il a publié un démenti en dénonçant un courrier portant sa signature avec de faux éléments pour manipuler l'opinion publique sur les valeurs de l'Union calédonienne. Il précise qu'aucune réunion n'est prévue pour changer de nom ni de valeur et il affirme que la devise de l'UC, deux couleurs, un seul peuple, reste l'un des piliers de sa philosophie politique. L'Union calédonienne qui se réserve le droit de porter cette affaire devant la justice et qui appelle au discernement et à la raison durant cette séquence politique charnière.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici tout d'abord la réponse à notre question d'hier. 79% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Manuel Valls ne va pas arriver à convaincre le nouveau FLNKS de reprendre la discussion autour de l'accord de Bougival. Ils sont donc 21% à penser à l'inverse que le ministre va convaincre le nouveau FLNKS. Voici maintenant notre question du jour. Êtes-vous satisfait que le comité de rédaction ait abouti à la rédaction de la première version du projet de loi constitutionnelle ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Notez maintenant ce rendez-vous d'antenne. Lors de son séjour, Manuel Valls a annoncé l'envoi de renforts de personnel médical. Des renforts qui viendront pour des missions de 3 mois et interviendront de façon tournante, en priorité dans les zones en pénurie. Une initiative à laquelle l'Ordre de Malte a travaillé. Pour nous en parler, nous recevrons ce matin à 7h30 le délégué territorial de l'Ordre de Malte, Yann Carpentier. Et puis on a beaucoup parlé de Sudpro, la plateforme mise en place par la province Sud qui permet d'aider les patentés et les très petites entreprises. La province a également lancé au même moment Sudjeune, un dispositif qui favorise l'accès des moins de 30 ans au marché du travail. Il a déjà permis l'embauche de 36 jeunes, dont 34 en CDI. Alors comment fonctionne ce dispositif et quel bilan en tirer ? Rendez-vous ce midi dans le magazine Citoyen. Pour en parler, nous recevrons Charlène Gauthier, la directrice adjointe de la Direction du développement économique et touristique à la province Sud, Catherine Desrumeaux, la gérante du laboratoire du Catalan, et Jade Vanal, gérante de Tiati. Plusieurs jeunes également qui ont bénéficié du dispositif Sudjeune seront dans nos studios. En attendant, il est 6h passé de 43 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment cette enquête ouverte après un tir d'arme à feu sur la gendarmerie de Tadine.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et si Molière débarquait au Théâtre de Lille ? La compagnie Grand Tigre signe une comédie drôle, pétillante et intelligente, traversant la vie et l'œuvre de celui qui, de son temps, fut le plus grand faiseur de grimaces sur scène, Molière. Venez en famille découvrir ce spectacle mordant les 30 et 31 août à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province Sud.
Et ouais !
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité locale et cette enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur des gendarmes à Tadine. Les faits remontent à hier matin et c'est le procureur de la République Yves Dupas qui l'annonce dans un communiqué, Léo Fichou.
Vers 4h30 ce lundi matin, les gendarmes sont appelés par un administré de Marais qui leur demande d'intervenir. Ils se rendent donc immédiatement dans les bureaux de la brigade pour se préparer. C'est là qu'un coup de feu retentit. Le tir, très probablement venant d'un fusil de chasse de calibre 12, atteint les locaux de la caserne dont la lumière était allumée. 18 impacts ont été relevés sur l'une des fenêtres donnant sur la voie publique, dont 7 ont été perforants sur les portes ou des cloisons intérieures. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. D'après le procureur, le tireur aurait alors pris la fuite en voiture au vu du bruit de moteur entendu par les gendarmes présents sur les lieux juste après le tir.
Le procureur qui précise que la section de recherche de la gendarmerie est chargée des investigations. Yves Dupas affirme que le parquet et les enquêteurs sont déterminés à déployer tous les moyens d'enquête nécessaires pour identifier et interpeller le ou les auteurs de ces faits d'une gravité certaine, qui sont d'ailleurs punis de la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité. Direction le Nord, à présent, après la disparition d'un pêcheur à pied samedi soir à Koumac, le COSNC et la gendarmerie ont arrêté leur recherche, Léo.
Malgré un important dispositif mis en place hier, avant-hier, dans la zone de Babouya, un hélicoptère Puma, des FANC, 4 moyens nautiques et une patrouille terrestre de gendarmerie, l'homme est toujours porté disparu. Sa scène de pêche et ses lunettes ont tout de même été retrouvées. Noyade, attaque de requins, disparition sur terre, aucune piste n'est exclue. Une enquête pour disparition est désormais ouverte par la gendarmerie de Koumac. Le gouvernement exprime par voie de communiqué son soutien à la famille et aux proches de la personne disparue, avant de rajouter que ce drame rappelle le danger auquel s'expose toute personne lors d'une sortie en mer. Le gouvernement rappelle également les gestes simples à adopter, consulter les bulletins météo, vérifier son matériel et les équipements de sécurité, informer un proche, se munir d'une VHF et contacter le 16 en cas de difficulté.
Et toujours dans le Nord, dans l'actualité sanitaire, le CHN annonce la réouverture du service de chirurgie de Koné dès le 1er septembre. 10 lits seront opérationnels. Autre nouveauté, la reprise des sorties SMUR en journée uniquement. Les détails de Marc Ouetté, le nouveau directeur du centre hospitalier du Nord.
Ce qu'on va pouvoir faire avec les recrutements paramédicaux que nous avons pu réaliser sur ces deux derniers mois, c'est essentiellement la réouverture du service de chirurgie, mais à mi-capacitaire, à demi-capacitaire, c'est-à-dire 10 lits uniquement, autrement tout le reste reste à l'identique. L'objectif étant de bien sûr réouvrir les lits d'hospitalisation déjà sur Koné, mais aussi la perspective de remettre un peu plus d'offres de soins au niveau du Koumak et de Poigny-Mié. Il s'agira d'ouvrir les soins externes, voire les urgences dans un deuxième temps, mais il faut avant tout qu'on arrive à stabiliser le personnel, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant.
En revanche, pas de changement au CHN de Koumak et de Poigny-Mié. Seules les consultations médicales sont assurées. Dans l'actualité institutionnelle, le dispositif de soutien à l'emploi du gouvernement se précise. La loi du pays a été adoptée le mois dernier au Congrès et hier, ses élus ont donc adopté une délibération définissant ses modalités de mise en œuvre, Léo Fichou.
Plus de 4000 salariés seraient soutenus par cette loi du pays. Elle présente deux dispositifs phares, une allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi, qui, je le rappelle, est équivalente à 100% du SMG dans la limite de 125 heures par mois. Le second dispositif porte la création d'un fonds emploi. Il vise à soutenir le retour à l'emploi en instaurant une réduction dégressive des cotisations patronales pour toute embauche d'un demandeur d'emploi pour une durée supérieure à 6 mois. Aujourd'hui, le projet de délibération adopté visait à définir les modalités de mise en œuvre de ces deux dispositifs, comme l'explique Christopher Gigès, membre du gouvernement, en charge notamment du travail et de l'emploi.
Pour les démarches, il va y avoir différents critères. Il y a pour les entreprises qui bénéficiaient déjà du chômage partiel, on a une automaticité sur les critères. Il n'y aura pas forcément de démarche particulière. On a déjà, depuis le vote de la loi de pays, nos directions qui ont contacté les différentes entreprises pour qu'elles rentrent dans le dispositif. Et pour les entreprises qui sont en situation compliquée économique, elles vont devoir contacter la direction du travail et de l'emploi, donc via le formulaire, pour bénéficier du maintien dans l'emploi. Et sur la partie retour à l'emploi, un dispositif particulier est mis en place également sur notre site.
Ce projet de délibération a été adopté à l'unanimité par les groupes représentés au Congrès qui ont tous rappelé sa nécessité pour soutenir l'économie calédonienne au moins jusqu'à la fin de l'année.
Autre sujet à l'ordre du jour hier, l'examen d'une proposition de loi du pays relative à la solidarité et à la lutte contre le gaspillage. Le texte présente une obligation pour les grosses entreprises de proposer leurs denrées alimentaires invendues aux associations concernées, Léo.
Plus de 4000 tonnes de biodéchets étaient recensées en 2021, soit plus de 10 millions de repas perdus en une année. Un gaspillage qui se fait à chaque étape de la chaîne alimentaire, production, importation, distribution, mais aussi chez les consommateurs. Aujourd'hui, les associations caritatives, la Banque alimentaire, Saint-Vincent-de-Paul, Macadam et bien d'autres recensent une demande d'aide de la population qui aurait augmenté de 30% ces derniers mois. C'est donc dans ce contexte de précarité alimentaire accrue que le groupe Calédonie Ensemble a présenté cette proposition de loi du pays. Annie Roisé a été désignée rapporteure spéciale.
C'est un texte qui est nécessaire parce que même avant les événements de mai 2024, on a déjà ressenti une baisse de dons des entreprises. Donc aujourd'hui, on vient renforcer le dispositif incitatif. Donc l'objectif principal de ce texte, c'est de mettre en place une plateforme qui va permettre aux donateurs et aux associations qui peuvent recevoir d'être en relation solidaire. L'obligation, c'est de proposer que les entreprises puissent proposer des dons alimentaires aux associations qui sont agréées.
La proposition de loi du pays a été adoptée à l'unanimité, là aussi par les membres du Congrès. L'obligation de proposition de dons cible uniquement les importateurs, producteurs et distributeurs alimentaires dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs hors taxes. Cela concernerait 43 sociétés. L'amende en cas de manquement s'élève à un peu plus de 447 000 francs.
En bref, le CESE a publié hier son rapport d'activité 2024 et malgré une année compliquée par les émeutes, le Conseil économique, social et environnemental a rendu 24 avis, 2 vœux et 2 contributions. Le CESE a également contribué à la réflexion sur le plan de refondation et de reconstruction du gouvernement. On retiendra encore de cette année 2024 que le CESE a créé une 11e commission dédiée à l'évaluation des politiques publiques. En bref, toujours, le Betty Show fera aujourd'hui une rotation spéciale loyauté Sud-Île en concertation avec Air Calédonie à la suite des incidents techniques de ces derniers jours sur les appareils de la compagnie, a annoncé la mise en place d'une rotation Nouméa-Marais-Lifou-Nouméa. Le départ est prévu à 7h d'ici 10 minutes ce matin pour un retour à 19h30. Il est 6h51, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité politique en métropole et François Bayrou qui va solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Date annoncée de la chute de son gouvernement puisque les oppositions ne laissent planer aucun suspense. On en parle juste après ça.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, samedi 30 août, café rencontre de 9h30 à 12h. Expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et François Bayrou qui a pris tout le monde de court la nuit dernière. Le Premier ministre a surpris son auditoire lors d'une conférence de presse sur la question du déficit public. Il a en effet indiqué qu'il allait solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain après une déclaration de politique générale. Vote qui pourrait avoir pour conséquence la chute de son gouvernement, comme il l'a lui-même expliqué.
J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances, donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. La Constitution est extrêmement simple. Déclaration de politique générale, vote. Si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe.
Et le gouvernement pourrait tomber puisqu'à gauche, les écologistes, le PCF et la France Insoumise ne laissent planer aucun suspense et annoncent qu'ils voteront pour faire chuter le Premier ministre. Écoutez Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis.
Plutôt qu'un chaos, c'est justement remettre les choses en ordre, c'est-à-dire faire partir un gouvernement qui est illégitime. Je crois que nous avons donc la date où ils tomberont.
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, déclare de son côté qu'il est impensable que les socialistes votent la confiance du gouvernement. Du côté du RN, maintenant, Marine Le Pen demande également l'organisation d'élections législatives. Seule la dissolution permettra aux Français de choisir leur destin, écrit Marine Le Pen sur ses réseaux sociaux. Thomas Ménager, le porte-parole du Rassemblement National, confirme le vote du RN.
Nous n'avons jamais soutenu le gouvernement de François Bayrou. Nous sommes dans l'opposition, c'est très net. Et il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, pas de majorité dans le pays. Et donc, il n'a pas notre confiance.
Cela veut dire que le gouvernement, mathématiquement, tomberait le 8 septembre prochain. Confronté à une assemblée morcelée, à une impopularité record et à une grogne qui monte dans la rue, François Bayrou est prêt à prendre le risque de ce vote. Une façon également pour lui d'apparaître comme l'homme qui aura tout fait pour sauver les comptes publics, Maïalène Trémollet.
Oui, François Bayrou a fait son choix, partir plutôt qu'être renversé par une motion de censure qui le menaçait dans les semaines à venir. Autrement dit, en fixant lui-même la date de sa potentielle chute, François Bayrou met en scène son renoncement pour incarner jusqu'au bout la figure du dirigeant responsable et rejeter la faute sur les oppositions, incapables selon lui d'assumer un constat budgétaire alarmant. Dans ses propres rangs, on distingue une stratégie assumé, mûri. Un conseiller salue un choix courageux. Il prend le contre-pied. Maintenant, tout le monde est face à ses responsabilités. Un autre poids lourd de la Macronie rappelle, on a passé notre temps à dire qu'il restait pour rester. Maintenant, au moins, il est lucide. Il faut dire qu'à moins de 2 ans de la présidentielle de 2027, ce vote permet surtout au président du Modem d'orchestrer son départ avant de pouvoir être attaqué sur son bilan ou même d'être associé à celui d'Emmanuel Macron.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Bruno Retailleau, lui, va convoquer le préfet du Puy-de-Dôme. Il souhaite faire un point sur l'insécurité grandissante à Clermont-Ferrand depuis le début de l'année. 6 homicides depuis le 1er janvier, dont 4 en lien direct avec le trafic de drogue. Il faut dire qu'il s'agit là de crimes extrêmement violents et choquants. Robert Ortega est délégué départemental du syndicat Alliance Police Nationale.
Ça devient des meurtres trop barbares avec la technique du barbecue où on retrouve ces jeunes dans des véhicules calcinés avec un couteau dans la tempe. Quant à présent, on n'avait jamais vu ça sur Clermont. C'est des techniques qu'on peut voir dans le sud employées par la DZ Mafia.
Et le syndicat demande l'envoi d'une 50aine de renforts supplémentaires à Clermont-Ferrand. Il est 6h56, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour ton orientation ou ta reconversion, découvre toutes les opportunités qu'offre la formation en alternance de la CCINC. L'alternance, c'est une formation, une expérience, un métier. Des formations adaptées aux entreprises pour former les collaborateurs de demain. Rendez-vous le samedi 6 septembre dès 8h pour les portes ouvertes du CFA de la CCINC. Ne manque pas cette opportunité. Plus d'infos sur les sites cfa.cci.nc ou .a.nc. La CCI Formation Alternance, accélératrice de compétences et d'insertion professionnelle.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive avec vous, Nicolas Legrand.
Du tennis à la une ce matin avec la suite du premier tour de l'US Open avec pas moins de 17 Français engagés, dont 12 hommes, Léo Fichou.
Avec des bonnes nouvelles d'abord ce matin, on notera les qualifications pour le deuxième tour de Benjamin Bonzi, tombeur en 5-7 de Daniil Medvedev, mais aussi d'Hugo Blanchet, d'Adrien Manarino et d'Arthur Rinderknecht. Ça ne passe pas en revanche pour Corentin Moutet et Hugo Humbert. Du côté des têtes de série, Novak Djokovic a passé sans encombre le premier tour, tout comme Taylor Fritz et Ben Shelton. Carlos Alcaraz affrontera l'Américain Riley Opelka en fin de matinée. Yannick Sinner jouera lui la nuit prochaine.
Et du côté des femmes, Léo, elles sont 5 tricolores et la première qualifiée, c'est Diane Paris.
Elle s'est qualifiée, oui, en 52 minutes de jeu. Elle s'est facilement imposée 6-1, 6-0 face à Petra Kvitova qui prendra sa retraite. Donc après ce tournoi, elle est donc éliminée. Du côté de Caroline Garcia, elle dispute son dernier tournoi. Elle affronte Camilla Rakimova. Elsa Jacquemot est opposée à Marie Bouzoka. Un mot des têtes de série. Là aussi, Arina Sabalenka, numéro 1 mondial. Jessica Pegula et Jasmine Paolini se sont imposées, qualifiées pour le deuxième tour. Coco Gauff et Iga Świątek entreront en lice demain.
Et on termine avec un mot de cyclisme. David Gaudu a remporté cette nuit la troisième étape de la Vuelta. Il s'agit du Tour d'Espagne.
Le Français de la team Groupama FDJ s'est imposé au sprint devant deux grands noms de ce Tour d'Espagne, Mats Pedersen et Jonas Vingegaard. Après une saison compliquée, David Gaudu était forcément très heureux à l'arrivée.
Ouais, c'est sûr que la saison a été vraiment tellement difficile. Et j'ai pas gagné un World Tour depuis. Je crois que c'est peut-être bien le critérium du Dauphiné où j'avais battu Wout van Aert. Bon, là, sur le CV, on va rajouter Mads sur un sprint. C'est anecdotique, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Au classement général, David Gaudu est à égalité presque parfaite avec le Danois Jonas Vingegaard qui conserve son maillot rouge de leader pour 0 seconde. L'Italien Giulio Ciccone est troisième à 8 secondes du leader.
Merci Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, on va commencer par cette vigilance jaune avec un vent violent à partir de ce matin jusqu'en soirée sur la côte ouest, au sud de Pointe-Botte et jusqu'à l'île des Pins pour un vent orienté ouest à nord-ouest autour des 20 à 25 nœuds et avec des rafales prévues jusqu'à 35 voire 40 nœuds aux environs de 75 km/h. Ce matin sur l'ouest, après un début de matinée bien ensoleillé, des nouvelles averses arriveront dans un ciel qui se chargera. Ailleurs, le beau temps résistera. Le vent pour ce matin ouest à nord-ouest, il se renforce et devient plus soutenu autour des 20 nœuds. sur le nord-ouest et la pointe nord, 20 à 25 nœuds en rafale et jusqu'à 35 nœuds sur le sud-ouest. Il sera plus modéré ailleurs, autour des 15 nœuds. Voyons voir pour cet après-midi. Le ciel se chargera davantage sur la façade ouest et le relief avec des averses qui deviendront plus fréquentes, notamment sur le sud-ouest. Quelques belles éclaircies se maintiennent sur l'ouest, alors que les localités bénéficieront encore d'un temps plus ensoleillé. Le vent pour cet après-midi, toujours à l'ouest-nord-ouest, il reste fort autour des 20 à 25 nœuds, jusqu'à 35 nœuds et 40 nœuds sur le sud-ouest. Et jusqu'à l'île des Pins, il souffrira entre 15 et 20 nœuds ailleurs. Peu de changements côté température, elles seront comprises entre 24 et 27 degrés de l'île des Pins au nord-est.